1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Merci Céline, bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Europe 1. On est ensemble pour ce dernier jour de la semaine, pendant 2 heures, pour faire le tour de la question. C'est Julie qui prend le relais, qui accueille dès maintenant tous vos témoignages au standard. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy, 39,21, 50 centimes la minute pour le standard.
Oui, au terme d'une semaine importante pour Emmanuel Macron, une autre, chef des armées aux Invalides mardi, chef d'Europe toute la semaine, volante à la rescousse de sa liste Renaissance. On va s'interroger à cette occasion sur ses 2 premières années à l'Élysée, avec Mickaël Darmon d'Europe 1 qui publie « La politique est un métier ». Avec l'analyse de Frédéric Dabi de l'IFOP sur cet exercice du pouvoir et avec une plongée un peu plus psychanalytique, si vous voulez bien, sur la manière d'être président d'Emmanuel Macron avec Serge Éphèse. Et puis à 10h, je vais vous poser la question suivante. Seriez-vous prêt à vous engager dans l'humanitaire? 450 ONG en France au bas mot, parmi elles des statures internationales évidemment, de l'UNICEF à la Croix-Rouge en passant par Médecins Sans Frontières. L'humanitaire, c'est un métier, loin de l'improvisation, loin de la précipitation. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous adhérez vous-même ou si vous donnez régulièrement à ces associations. On fait le tour de la question, c'est le sommaire jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec l'actualité la plus récente en politique, cette affiche tirée à 60 000 exemplaires d'Emmanuel Macron, tout sourire, le regard tourné à gauche vers l'horizon, sur fond de bleu européen et ce slogan « En marche pour l'Europe, ce 26 mai, je vote ». Renaissance. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Éditorialiste politique à Europe 1. On va parler dans un instant de votre ouvrage. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP, est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Wendy.
Affiches et implications décrites ces dernières heures sur Europe 1 et qui rendent à Emmanuel Macron, Mickaël, sa qualification de chef de clan, de chef de camp, loin de son image au-dessus des partis. Il assume ?
Oui, parce qu'il assume comme les autres présidents. Faut se rappeler aussi que Nicolas Sarkozy s'était engagé dans la campagne des européennes en 2009 avec un meeting d'ailleurs qu'il avait tenu. Là, on a aussi une implication qui est au fond encore plus, naturelle, parce que il avait mis au cœur de sa campagne Emmanuel Macron l'Europe et qu'il joue un moment très important de son quinquennat. C'est la première élection nationale depuis 2017. On se retrouve encore dans la même martingale, c'est-à-dire le Front National, le Rassemblement National maintenant face à La République En Marche. Lui-même, parce que la campagne, et on va en parler, est difficile pour La République En Marche, a décidé de dramatiser les enjeux en disant que c'est pratiquement une redite de 2017. Donc on voit bien qu'il se lance complètement dans la bataille, d'abord parce qu'il a des convictions européennes fortes évidemment, mais aussi parce que la mobilisation est de mise, parce que l'heure est grave pour eux, pour les marcheurs, et il est fort possible qu'il ne soit pas forcément en tête à la fin du scrutin.
Ah oui, avec des commentaires que nous avons eus au gré de notre consultation Facebook, vous vouliez en citer deux pour commencer,
oui,
Julie,
exactement.
Sur cette incarnation.
Patrick nous dit, le président étant directement concerné, il a entièrement raison de s'impliquer. Mais Fred rappelle que selon la Constitution, le président de la République ne peut pas participer à une campagne électorale, ce qui est dévolu au Premier ministre. Ce rôle est dévolu au Premier ministre.
Les deux,
c'est vrai ça, il ne peut pas, selon la Constitution, s'impliquer dans une campagne.
Il peut.
Mais alors, Frédéric Dabi,
les deux remarques me paraissent extrêmement pertinentes. On sait que dans un scrutin intermédiaire, c'est souvent un scrutin qui est instrumentalisé par une partie des Français pour sanctionner le pouvoir en place. Et on sait également, Mickaël Darmon l'a dit, que tous les présidents, Charles de Gaulle y compris, avant le fameux référendum de 1969, Giscard d'Estaing avec le bon choix à 3 jours des élections législatives de 1978, Nicolas Sarkozy en 2009, va s'impliquer dans la campagne. Emmanuel Macron a tout à fait raison de le faire, car En Marche, c'est lui. Le vote pour la République En Marche, c'est un vote pour ou contre lui, puisque ses adversaires, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Marine Le Pen pour le Rassemblement National, l'impliquent à son corps défendant. Je dirais qu'il l'assume. Le risque, c'est remobiliser contre lui. Dans notre rolling quotidien IFOP fiduciel pour Paris Match et CNews, on voit qu'il y a une surmobilisation de l'électorat du Rassemblement National, et les ferments de la victoire du FN à l'époque en 2014 se remettent en place, même si 24% pour le RN, 23% pour la République En Marche, on est clairement dans la marge d'erreur.
Donc quand du côté de l'Élysée, pas officiellement mais officieusement, on dit que Emmanuel Macron répond à un besoin d'incarnation présidentielle de la campagne, on est vraiment dans cette droite ligne. Autrement dit, la tête de liste n'a pas fait le travail, il faut venir à sa rescousse aujourd'hui, il y a 10 jours pour agir.
Vous saviez, les directeurs de campagne, ça fait déjà plusieurs semaines, même avant que Nathalie Loiseau soit désignée, qui disait au fond, peu importe la tête de liste, puisque la vraie tête de liste, ce sera le président Macron avec son engagement dans la campagne.
Oui.
Donc ça, c'était déjà
en
le
choisissant
on va dire,
une tête de liste
de
moins charismatique, il a pris aussi, lui, un avantage pour remobiliser
bien
les
sûr, mais c'est vrai, c'est aussi, il faut savoir, une spécificité française que de chercher un peu toujours la rockstar pour la campagne des élections européennes, qui est la campagne pratiquement la moins suivie, la moins
60%
par les électeurs, et qui, dès le lendemain, va se déplacer dans son centre de gravité vers Bruxelles. Donc là, on est vraiment dans une particularité, je dirais, à la française, parce que l'approche est toujours nationale dans ce scrutin, alors qu'en réalité, les enjeux sont bien ailleurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a aussi dramatisé les enjeux en disant c'est, au fond, les nationalistes contre les progressistes, alors qu'en réalité, en projection européenne, très certainement, la vague populiste sera contenue sur les 800 députés. Donc on voit bien qu'on est sur un enjeu nationalisé pour des raisons de politique intérieure, parce qu'on se projette sur la matrice de la campagne présidentielle.
Oui, alors il y a peut-être quand même une occasion ratée. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il n'y a qu'une circonscription. La France, jusqu'à encore il y a quelques années, il y avait des circonscriptions européennes, et donc l'incarnation, les têtes de liste comptaient moins, comme elles étaient régionalisées. Là, il y a un vrai paradoxe. D'un côté, il y a cette nationalisation, et de l'autre, à l'exception de Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan, candidats présidentiels par le passé, nous n'avons eu que des candidats très peu connus des Français. Certains se sont révélés, François-Xavier Bellamy, Yann Brossat pour le Parti communiste français. Et c'est vrai que sur Nathalie Loiseau, il y a des critiques peut-être injustes, mais elle n'apporte pas pour l'instant, mais il reste une dernière semaine avec trois débats, la prime qui pourrait pousser d'un point ou deux la République en marche, même si le scrutin européen est un scrutin d'étiquette et de marque partisane.
Le 26 mai, vous voterez, chers amis, ou pas, mais en tout cas, c'est le jour de ces élections européennes, un seul tour d'ailleurs. Emmanuel Macron, chef d'Europe d'un côté, on pourra en reparler si vous le souhaitez, au 39-21. Emmanuel Macron, chef des armées aux Invalides, passant seul les troupes en revue, contrairement aux habitudes militaires. Solitude, verticalité du pouvoir, président, hyper-président, c'est ce qui ressort de la plupart des images, des commentaires, des analyses. On va faire un point justement sur la personnalité d'Emmanuel Macron et la perception qu'en ont des Français, aussi sur la gestion politique du président de la République. A tout de suite sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Après deux ans d'hyper-présidence, Emmanuel Macron doit-il changer de méthode, Wendy Bouchard ?
A-t-il tiré des leçons justement de ces deux ans à l'Élysée ? A-t-il appris ce métier ? C'est aussi autour de cette thématique que vous écrivez ce livre, Michaël Darmon, publié aux éditions de l'Observatoire. La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne. On ira davantage dans le détail avec vous justement sur cette méthode. En attendant, avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP, je vous demande ce que vous inspire ce président à travers ses actions, ses prises de parole, ses postures. Un président qui s'affiche donc pour une éventuelle reconquête et une remobilisation à 10 jours des européennes, et un président, messieurs, qui aura souhaité passer seul les troupes en revue. C'était mardi, à l'occasion de l'hommage national rendu aux deux soldats des forces spéciales tombés au Burkina Faso, dans la cour des Invalides. C'était contraire à l'usage qui veut qu'ils suivent quelques pas en arrière les commandants des troupes présentes. Et l'Élysée a souhaité revenir sur ce rituel. Hein. Ce n'était pas pour rien. Il savait forcément que l'image marquerait.
Oui, il y avait bien sûr cette dimension de cette solitude du pouvoir dans un moment très difficile, c'est-à-dire venir rendre hommage à deux militaires qui sont tombés lors d'une opération. Et je pense que, en regardant effectivement cette image, ça m'a également frappé, mais tout de suite m'est venue en fait l'idée de dire il veut assumer. Parce que c'était une décision difficile, parce qu'il était face à des familles éplorées qui étaient là parce qu'il avait pris la décision de cette opération, et que c'est parce qu'il a pris cette décision que ces soldats, en faisant leur métier aussi, eh bien, sont tombés sous les balles des djihadistes. Et donc, il n'a pas voulu se mettre derrière le patron des armées, en tout cas le chef de l'état-major, parce que le chef des armées, c'est lui. Et dans ce moment-là, il a voulu envoyer ce signal en disant « j'assume ».
Oui. Oui, j'assume, donc, d'où une surexposition aussi, dont j'assume les conséquences. Frédéric
oui,
David.
Je ne pense pas que ce geste soit retenu négativement contre lui. Ce qui est très fort, c'est l'émotion des Français. Ça a été le sujet dont les Français ont pu parler la semaine dernière, et les vaines polémiques autour de l'imprudence supposée des touristes ont été complètement balayées. C'est vrai que c'est, ce sont des moments où la nation fait commun, fait corps, et les polémiques n'ont pas de place dans un contexte où, très clairement, il y a systématiquement un consensus très fort sur les décisions présidentielles en la matière. Mm-hmm. Les deux moments de rebond très fort de la popularité de François Hollande, président structurellement impopulaire, ont été bien sûr la gestion des attentats terroristes, mais la décision, maintenant, on le voit avec du recul historique, d'envoyer des troupes au Mali en janvier 2013. Donc de ce point de vue-là, les querelles partisanes, les exploitations électorales ne prennent pas chez
bien
les Français.
Bien sûr, mais qu'est-ce que ça donne en termes de perception justement de son autorité ? Vous aviez un sondage fin janvier, après plusieurs semaines de mobilisation de Gilets jaunes et le grand débat national, avec une baisse d'opinion. L'autorité que les Français lui reconnaissaient passant de 69% à 54%. Sa capacité à réformer le pays descendant aussi rapidement dans les sondages. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là aussi, dans sa capacité à faire autorité ?
Alors, l'autorité d'Emmanuel Macron n'a jamais été un sujet pour les Français, à la différence d'un François Hollande dont on sentait que sa main pouvait trembler, il y avait cette image d'indécision. Oui. Il le montre dès le soir de sa victoire avec sa pérégrination solitaire dans la cour du Louvre sur l'hymne à la joie de Beethoven. Les Français ont beaucoup apprécié une capacité du président à se distinguer de ses deux prédécesseurs. C'est quelque chose qui est très très fort, mais ils s'inscrivent moins dans une logique d'incarnation que d'une logique de résultat de sa politique. L'affaire Benalla a banalisé son incarnation de la fonction. Les choses se sont remises en place. N'oublions pas que ça...
Banaliser, vous voulez dire qu'il a été finalement un président comme les autres, c'est ce que vous dites dans votre livre, Michael
Darmon. Banalisation. Oui. Maintenant, les Français se situent sur une logique de résultat. Mm. François Hollande a vu son quinquennat qui a été polarisé par l'inversion finalement ratée de la courbe du chômage. Maintenant, ce qui va être le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce n'est pas son autorité, elle ne fait pas débat, c'est sa capacité à obtenir des résultats sur la question centrale du pouvoir d'achat.
D'accord, et c'est intéressant parce que vous prolongez vraiment cette réflexion, Michael Darmon, dans votre livre, sur cette seconde partie du quinquennat qui s'ouvre sur une interrogation. Emmanuel Macron est-il le premier représentant d'un monde nouveau ou le dernier du monde d'avant ? Et c'est vrai qu'à l'occasion de cette affaire Benalla, qui l'empoisonne quand même un peu depuis l'été, il est apparu aux yeux des Français un peu comme les autres politiques, c'est-à-dire couvrant, essayant de mettre cette affaire de côté, ne disant pas avec transparence vraiment les choses comme on attendait d'un nouveau gouvernant.
Oui, ce qui m'a frappé en reconstituant ce récit, c'est que, au fond, l'affaire Benalla a été le point de départ de la rupture. Parce que c'était la rupture vis-à-vis de la confiance. Oui. La première loi du quinquennat a été la loi de confiance, passée par donc, la majorité de Emmanuel Macron, sur le thème « plus jamais ça, on ne fera plus comme avant, on va changer les usages et on va vraiment rénover la pratique démocratique française ». Or voilà que l'affaire Benalla, les Français la captent pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une faute qui a été commise dans l'entourage du président de la République, peu importe, on ne va pas rentrer dans les ramifications, mais surtout qui n'a pas été immédiatement sanctionné. Et là, les Français ont immédiatement capté cela. C'est le point de départ qui mène vers les Gilets jaunes. Vous savez, il y a une scène que je mets en début du livre, qui pour moi était frappante, c'est au fond celle sur les Champs-Élysées, ouais, celle de l'autobus des joueurs de la Coupe du Monde, ouais, qui arrive à toute vitesse, qui passe en trombe pratiquement devant des supporters qui attendaient depuis des heures et des heures sous le soleil parce qu'il fallait aller à l'Élysée. Et dans le bus, il y avait Alexandre Benalla. Personne ne savait encore, on était trois jours avant l'explosion.
Il y avait montre en main.
Trois jours avant l'explosion de l'affaire, personne ne le connaissait encore. Mais déjà, en coulisses, c'est quelque part, il était celui qui a donné un peu ce coup d'accélérateur au quinquennat, qui a amené à la colère par les Gilets jaunes. Pratiquement quelques mois plus tard, certainement parmi les supporters des Bleus, se trouvaient des Français en colère qui sont revenus sur les Champs-Élysées. Et c'était ces mêmes Français, ceux-là même qui avaient pleuré Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées encore un an avant. Oui. Et qui étaient venus montrer comment cette France populaire pouvait être en masse.
Rupture de confiance, présidence fracturée, comme vous le dites, Michael Darmon, dans ce livre « La politique est un métier ». Frédéric Dabi pour mettre en lumière justement l'évolution du regard que les Français portent sur Emmanuel Macron, la perception de ses deux ans de présidence, deux ans de pouvoir, avec un certain vide fait autour de lui. Désormais, on n'est plus vraiment dans l'équipe d'il y a deux ans. On va faire le point justement avec vous, messieurs, en coulisses. Et n'hésitez pas à réagir, comme Jean-Luc, auquel je donne la parole juste après la pause. Le Standard vous attend, chers amis.
39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question, jusqu'à 10h, on parle d'Emmanuel Macron. Selon vous, fallait-il qu'il s'implique dans la campagne européenne? Wendy Bouchard et ses invités.
Comment jugez-vous, Julie, ces 2 ans d'hyper-présidence? Est-ce qu'il doit changer de méthode, le président de la République? Avant de recevoir le témoignage de Jean-Luc au 39-21, un tout petit mot justement sur l'implication, Frédéric Dabi, dans la campagne européenne, le besoin d'incarnation, la remobilisation. Il peut créer un appel d'air pour vous, remobiliser encore à 10 jours des élections?
Ça peut être à double tranchant. C'est vrai que l'enjeu pour lui, c'est remobiliser son socle électoral.
Mais
les
24% déjà.
D'électeurs, oui. Mais ils ne sont pas complètement
pas
sous la liste de la République en marche.
Ouais.
Et surtout, comme on est sur un scrutin qui est extrêmement peu participatif, l'important, c'est créer un différentiel de participation et surmobiliser. Pour l'instant, et c'est pour ça que je disais que les ferments de la victoire du FN de 2014 sont là, l'électorat qui est le plus sûr d'aller voter et le plus sûr de son choix, c'est l'électorat du Rassemblement national. Mmh. Sur le papier, Wendy, ça paraît étrange quand on connaît la sociologie du vote RN, plutôt jeune, plutôt issu des catégories populaires, c'est-à-dire les catégories qui votent le moins. Le RN, oui. Sans doute grâce aussi à l'implication du président, parvient grâce à ce référendum anti-Macron à faire venir ses troupes et son socle électoral. Pour Emmanuel Macron, c'est vraiment un enjeu de participation massif parce que s'il arrive à faire voter quasiment la plupart de ses soutiens de 2017, La République En Marche parviendra en tête, mais c'est une mobilisation qui crée aussi une mobilisation antagoniste en sa défaveur.
Ça, c'est sûr. En tout cas, il montrera que ce nouveau monde qu'il veut porter et appeler de ses voeux peut exister derrière lui. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup d'échanger avec nos invités sur ce sujet-là, sur l'exposition, voire la surexposition d'Emmanuel Macron, en tout cas sa présidence très verticale. Quel est votre sentiment?
Comment peut-il faire autrement? De la genèse même de son élection, il est seul au monde, Macron. Mmh. Quels sont ses poids lourds? Enfin, autour de lui, c'est qui? Griveaux, personne ne sait qui c'est. Il est parti se suicider à l'élection au municipal de Paris.
Il est dur, il a des chances quand même, oui.
Ah, oui. Franchement, on verra. Enfin, bon, oui. On verra. Ferrand. Pareil, sombre ex-député socialiste, parlons pas de Castaner, le Premier ministre Édouard Philippe, il est sympathique, il lui fait, Sarkozy, un excellent secrétaire d'État au sport.
Mais c'est un compliment dans ma bouche.
Jean-Luc Desargues, c'est bien.
mais là, franchement, allez, vous rendez compte, aller chercher des soutiens comme Ségolène ou Raffarin, c'est ça le nouveau monde. Au secours, quoi. Donc il est tout seul.
Alors, vous dites deux choses. Vous dites deux choses à votre manière, cher Jean-Luc, mais intéressante. C'est-à-dire, d'abord, cette solitude quasiment qu'il a créée ex nihilo, Michael Darmon, pour répondre à Jean-Luc. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment de poids lourd autour de lui. Bon, Gérard Collomb est parti à un moment maintenant, les grands sont partis à un moment. Il n'a pas cherché à les remplacer, d'abord.
Le problème structurel chez Emmanuel Macron, c'est effectivement un problème de DRH. On a le sentiment que, quelque part, pour faire cette image, c'est un peu Mbappé qui a gagné la Coupe du Monde avec la deuxième division. Parce qu'en réalité, lui, il est le champion, il est celui qui a porté son équipe, qui a eu la vista, qui a vraiment gagné cette compétition de manière fulgurante en un an de campagne. Mais derrière, à chaque fois qu'il y a un remaniement, à chaque fois qu'il faut trouver des gens pour remplacer ou occuper des postes, c'est toujours compliqué. Et on a vu à quel point c'était toujours d'ailleurs les gens issus de la droite qui fournissaient des solutions. Alors que paradoxalement, il a 300 députés issus justement de ce qu'on appelle le nouveau monde, arrivant d'horizons sociologiques très différents, parfois très experts et compétents dans des sujets, mais de manière extrêmement étonnante, il ne les fait pas monter. En réalité, ce dont on s'aperçoit, effectivement, c'est un peu là, maintenant, là, je dirais, la matrice de cette deuxième année de campagne, c'est que le paradigme est inversé. C'est vrai qu'il veut incarner le nouveau monde sur le papier, mais que pour pouvoir préserver son quinquennat, eh bien, il doit revitaliser les codes anciens.
Oui, cela dit, je cherchais la page à laquelle vous écrivez justement qu'on arrive à un temps du quinquennat où traditionnellement les présidents, et donc Nicolas Sarkozy, François Hollande avant lui, change d'équipe. Une équipe de campagne n'est plus une équipe au pouvoir. Mmh. Et là, on est vraiment dans cette thématique.
Absolument.
C'est pas le nouveau monde, c'est pas l'ancien monde, c'est comme ça depuis tout le temps.
D'abord, il y a effectivement cette épure classique qui fait qu'au bout de 2 ans, les équipes sont absolument exténuées. Mmh. Parce que pour certaines, sont celles qui sont arrivées depuis la campagne. Donc ça fait en clair, 2016. ça fait 4 ans qu'ils dorment pas.
Ils n'ont pas le même code.
Donc c'est compliqué pour pouvoir continuer à être frais et fournir des idées. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on va remplacer, où on va chercher. Par exemple, ces derniers jours, à l'Élysée, vous avez plus de 20 personnes qui sont parties à l'Élysée, hein. Ces derniers jours, par exemple, pour s'occuper des élus locaux, Jérôme Peyrat, est arrivé, c'est un conseiller issu de la droite. Il était, figurez-vous qu'il a commencé sa carrière politique. Il était directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie au RPR en 1999. Il a été ensuite directeur général de l'UMP sous Sarkozy. C'est un grand spécialiste des élus locaux. Il vient d'arriver à l'Élysée parce qu'il a rejoint la droite macroniste. Donc on voit bien que depuis...
Donc il a besoin, là, pour le coup, de gens dont la politique est
métier. Le renouvellement, c'est reprendre les gens d'avant. Au fond, et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à raconter cela, le titrer comme ça, les prédécesseurs de Macron ont connu la politique avant la victoire. Lui, il a connu la victoire avant la politique.
Oui, et un dernier mot, Frédéric Dabi, pour revenir sur les propos de Jean-Luc, un peu dur, mais qui dit voilà, il n'a pas de casting derrière lui, il est bien obligé de se mettre en avant puisqu'il n'a personne.
Oui, alors, je ferai un petit pas de côté. Franchement, les Français ne se situent pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultat. Mickaël a complètement raison, il y a un renouvellement des hommes, mais là où il y a une vraie rupture entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, il n'y a pas eu une rupture sur sa politique. Il n'a pas fait le tournant de 83 de François Mitterrand. Il n'a pas fait le pas de côté, la rupture très forte de Jacques Chirac au moment de la fin de l'année 95. Et c'est une de ses forces. Pourquoi il garde une impopularité, certes majoritaire, mais un socle de soutien de 30 à 35%, ce qui fait que dans un contexte où la bipolarisation est morte, les difficultés d'un président ne profitent pas directement à une opposition, mais il y a une lutte entre des oppositions éparpillées pour être le réceptacle de ce mécontentement qui, pour l'instant, n'existe pas vraiment. C'est que beaucoup de Français louent sa constance et sa cohérence sur la transformation du pays. Là où le bât blesse et on quitte une fois de plus l'incarnation, c'est qu'on a le sentiment que cette transformation du pays est injuste, et c'est ce que le grand débat avait montré.
Alors,
et le monde des gilets jaunes.
Ouais, absolument. On va faire le point, messieurs, dans un petit instant sur ces deux ans à l'Élysée. Quel bilan des réussites, mais aussi des casseroles ou des affaiblissements. Vous répondrez, Mickaël Darmon, à Pierre, qui nous signale que pour lui, la politique n'est pas un métier, mais un mandat. Et vous nous direz justement ce que vous avez voulu prouver dans ce livre, avant d'accueillir aussi le psychanalyste Serge Efes pour une lecture plus approfondie du personnage Macron. C'est peut-être intéressant de savoir si vous ralliez justement aussi à son analyse de psy. À tout de suite sur Europe.
On poursuit le tour de la question avec Wendy Bouchard et ses invités. Cela fait 2 ans qu'Emmanuel Macron est installé au palais de l'Élysée, 2 ans que le président le plus jeune de la Ve République découvre l'exercice du pouvoir. On va s'intéresser maintenant, Wendy, à sa personnalité.
Absolument. Si nous mettions ensemble Emmanuel Macron sur le divan, il y a quelques années, le journaliste Paul Amar avait publié un livre passionnant que je vous recommande, Freud à l'Élysée, analysant justement ce rapport très psychanalytique à la présidence et à la prise de décision. Et vous allez réagir, messieurs Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP sur le sujet, en compagnie de Serge Efes, psychanalyste. Bonjour Serge Efes.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans cette réflexion. Je vais vous livrer avec Frédéric Dabi un peu les traits d'image de la personnalité d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, si vous mettiez ce président, ce jeune président de 40 ans sur le divan, qu'est-ce que vous retiendrez tout de suite de ce personnage ?
Ce que je retiendrai, c'est que il a évolué. C'est-à-dire que 2 ans de présidence, ça a transformé un adolescent un peu tout feu tout flamme en quelqu'un qui s'est aguerri. Mmh. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup montré son narcissisme, son envie absolument énorme de plaire, de séduire, d'être aimé, d'être admiré, d'être un petit peu collé comme ça aux autres, dans ce besoin de séduire. Et puis, il a pris pas mal de coups, je crois, et que ça l'a de toute évidence aguerri. Il est plus à distance aujourd'hui.
Oui, narcissisme, on peut y revenir avec vous, Serge Efes. Cela dit, des propos authentiques qui parfois ont fait mal lorsqu'il propose de traverser la rue pour trouver un emploi, lorsqu'il recommande aux retraités d'arrêter de se plaindre. Il y a comme une distance, justement, entre quasiment le roi et ses sujets qui s'est approfondie à un moment donné.
Mais si vous voulez, ce qui est très déconcertant avec lui, c'est qu'il y a les deux aspects. Il y a vraiment les deux corps du roi en permanence. C'est-à-dire, il a du mal à trouver la bonne distance. Il est soit effectivement trop jupitérien, entre guillemets, et là, il devient arrogant et même insupportable dans certaines remarques qui montrent la distance qu'il a avec les autres. Et puis, à d'autres moments, on le voit danser quasiment avec des jeunes gens torse nu. On le voit dans une proximité extrêmement forte avec les autres, où il a l'air d'être presque collé aux autres. Mmh. Et effectivement, c'est ces volte-face entre les deux corps du roi qui sont très déconcertants.
Comment vous l'expliquez ça ? C'est qu'il n'a pas réussi à trouver sa place dans justement sa fonction ?
Mais c'est que, justement, il a toujours été, je pense, hein, sans faire de la psychanalyse de prise unique, mais je crois qu'il a, il a toujours été dans, quand on voit son enfance, le rapport qu'il a eu avec sa grand-mère, puis le rapport qu'il a eu avec celle qui allait devenir sa femme, il a toujours été dans ce besoin absolu de séduire, de convaincre, de montrer à quel point il est aimable, de montrer à quel point il est extraordinaire.
Le très bon élève. Oui.
Voilà, exactement. C'est l'élève parfait, c'est l'enfant roi, c'est l'enfant chéri, c'est le premier de la classe. Et ça lui a beaucoup collé à la peau, et ça lui colle sans doute encore un petit peu à la peau. Et donc ça le mettait dans une proximité avec tous. Moi, j'étais assez fasciné, vous savez, au début de son mandat, quand je le voyais dans la foule, de voir à quel point son regard captait l'autre, mais même l'autre inconnu, l'autre dans la foule, c'est-à-dire à quel point il se rendait présent pour absorber l'autre et pour rentrer à l'intérieur de lui, pour comprendre ce que l'autre attend, pour répondre exactement à ses besoins.
Et ça a été manifeste, Serge Hefèse, lorsqu'il a fait son marathon de grand débat, 7 heures, les yeux dans les yeux, justement, avec ceux qu'il a rencontrés. Hein. De nouveau, il ne s'est pas absenté, justement, avec ce regard.
Absolument, mais moi, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est qu'il cherchait à convaincre. C'est-à-dire qu'il cherchait, à travers, évidemment, toujours cette séduction et cette envie de plaire, eh bien, on voyait davantage ses convictions. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de plaire pour plaire, mais il s'agissait quand même de faire passer un message. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il propose. Mais en tout cas, il était davantage médiatisé par un contenu.
Alors, comme dit Emmanuel, Michael Darmon, la politique est un métier. Emmanuel Macron, Serge Hefèse, est dans un rôle authentique ou proche aussi d'un rôle d'acteur, finalement, de comédien, à certains égards.
Mais si vous voulez, ça, je crois que c'est le dilemme des présidents de la République depuis 3 ou 4 mandats. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a totalement changé dans la fonction présidentielle. On demandait autrefois à un président d'être désincarné, d'incarner sa fonction, d'être justement le plus jupitérien possible. Et petit à petit, on a demandé aux présidents que leur personnalité, leur trip, d'une certaine façon, nourrisse ce personnage présidentiel. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable incarnation du président, et cela, eh bien, ça a produit ce que ça a produit pour les 3 derniers présidents, c'est-à-dire qu'ils ont été adulés au départ, ils ont été portés au nu, et puis au bout de 6 mois, on les a tous jetés à la poubelle, parce que cette proximité avec la personne, elle n'est pas supportable pour des personnes aussi différentes qu'ont été Sarkozy, qu'ont été Hollande, qui sont quand même 2 personnalités totalement différentes, et encore une personnalité encore différente, qui est celle de Macron. Il y a ce même mouvement, c'est-à-dire que ce mouvement de se donner un petit peu en pâture dans sa personne à la foule, eh bien, ça produit plutôt l'effet inverse de ce qu'on attend, c'est-à-dire ça produit l'envie de le déchiqueter.
Oui, sachant que lors des campagnes, les slogans de campagne, des qualités aussi que ces hommes mettent en avant, qui ne seront pas forcément mises en œuvre ensuite. Souvenez-vous du président normal, finalement, qui a fait élire aussi François Hollande et qui a été quasiment ce qu'il a fait périr. Politiquement, j'entends. Michael Darmon voulait réagir au propos de Serge Hefèse.
Oui, et même les prolonger en disant que tout cela aussi est fonction la caractéristique de la Ve République, qui place au sommet de l'État le schéma mental du président. Oui. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement une présidence en retrait et mystérieuse avec Jacques Chirac, qui était effectivement qui est une personnalité finalement qu'on a fini par découvrir, qui est assez mystérieuse. On a vu une présidence extravertie, auto-centrée avec Nicolas Sarkozy. On a vu une présidence déconstruite et totalement échappant à toute logique avec François Hollande. Et quand est arrivé Emmanuel Macron, on s'est dit effectivement il y a un nouveau personnage qui arrive, tout en séduction, qui a choisi, vous savez, ça m'avait beaucoup frappé, j'avais observé également, qui a choisi pour dans la musique de son investiture le 15 mai, un air de l'opéra Don Giovanni. L'air du champagne. Voilà. C'était l'air du champagne. C'était le moment où, effectivement, dans Don Juan, à ce moment-là, est au sommet de son ivresse et est en contradiction avec toutes les normes. Ouais. Ça voulait dire effectivement des choses. J'avais demandé à l'époque, c'était Sylvain Faure, grand musicologue aussi, qui avait choisi la musique avec le président. Et ça m'avait frappé parce que c'était constitutif de la personnalité, effectivement, qu'installe Emmanuel Macron au sommet de l'État.
Je vais vous faire réagir juste après la pause, Frédéric Dabi, à la perception qu'ont les Français, justement, de cette personnalité qui a été bien analysé par Serge Effez, psychanalyste. Si vous voulez bien rester quelques minutes encore avec nous, Serge Effez, et puis je vous donne la parole au 3921. N'hésitez pas à réagir sur ce que vous venez d'entendre, les amis.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Que vous inspire le président de la République? Quelle perception des Français sur la gestion politique d'Emmanuel Macron? On en parle maintenant avec vous, Emmanuel Macron.
Oui,
c'est moi. Il n'est pas là. C'est Wendy Bouchard qui mène le débat.
Oui, parce qu'on s'intéresse aussi à l'aune de la personnalité, à la manière dont il gouverne, dont il dirige le pays. Emmanuel Macron, avec l'analyse il y a quelques instants de Serge Effez, qui est toujours avec nous, psychanalyste. Et je voudrais vous faire réagir, Frédéric Dabi, comment son image transparaît au gré des sondages que vous menez pour l'Institut IFOP?
Alors, même si je le répète, les Français jugent d'abord l'action et les résultats avant l'incarnation. Ce qui est assez intéressant, c'est à quel point, et c'était le cas aussi pour Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup de points communs entre eux, sa personnalité est fortement indexée à la perception de ce qu'il fait. Un de ses grands points forts, depuis le début du quinquennat, et c'est resté, c'est un volontarisme, un dynamisme. Le mouvement qui va de pair avec l'idée, chez ses soutiens, qui restent minoritaires, mais non négligeable, de 30 et 35% avec la quasi-totalité de son électorat, une part importante de l'électorat droite, c'est ce mouvement qui va de pair avec la transformation du pays. Il y a l'autorité qui ne fait pas qui ne suscite pas le moindre débat et qui s'inscrit en rupture avec l'indécision de François Hollande. Et cette distinction par rapport à son prédécesseur et par rapport à la présidence qui a été qualifiée d'agitée de Nicolas Sarkozy, malgré l'affaire Benalla, malgré les petites phrases, reste positivement à son crédit. En revanche, là où il y a un vrai souci et quelque chose qui est un acte lourd, c'est la question de la proximité, la question de la distance qui s'articule autour de deux dimensions, l'arrogance. Et là, on l'avait pour Giscard d'Estaing, on l'avait pour Nicolas Sarkozy. Ça a un peu baissé avec ce show du grand débat où on a vu qu'il a payé de sa personne, il a fait l'effort d'écouter, même si souvent c'était moins d'écoute que des longs monologues. Oui. Par contre, là où les choses n'ont pas bougé, et c'est extrêmement important, c'est la déconnexion. Malgré le grand débat, malgré de multiples interventions, les Français ont le sentiment que le président ne connaît pas vraiment leur vie. C'est lié aussi aux conditions de son arrivée. Il y a encore 4 ans, il n'était connu que par à peine un tiers des Français quand il est nommé ministre de l'économie et des finances. Ce côté ovni politique, ce côté construction d'une victoire en solitaire, ils étaient une petite dizaine autour de lui, a créé ce sentiment de déconnexion qui a été accentué aussi par toute une série de petites phrases.
Oui, voilà pourquoi vous dites aussi que la politique est un métier, Michaël Darmon, et que forcément, quand on a l'expérience politique, on en tire les conséquences et les leçons, et sur la déconnexion aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, dès le début, chez Emmanuel Macron, un postulat qui consistait à dire que tous les codes de la pratique politique depuis des années étaient ringards et ne correspondaient plus à l'époque. On voit bien que 2 ans plus tard, il est obligé de récupérer ces codes. C'est pourquoi je dis la politique est un métier, c'est-à-dire que à la fois, ça veut dire que c'est chez lui au-delà du constat, c'est aussi une prise de conscience et une décision. Il va maintenant agir, il agit maintenant comme un politique. Mais surtout, ce qu'il faut aussi bien mettre en place, si on parle des 2 ans quand même d'Emmanuel Macron, c'est la crise, l'explosion quand même au cœur de son quinquennat, qui est la crise des Gilets jaunes, et qui l'oblige à changer totalement de paradigme, à changer totalement de comportement et à se plonger dans le grand bain municipal de cette tournée des maires pour récupérer une légitimité qu'il n'avait pas dès le début.
Je vous interromps parce que Pierre n'est pas d'accord avec vous au standard. Bonjour Pierre, au 3921.
Oui, bonjour madame, bonjour monsieur Darmon.
Bonjour.
Oui, en fait... J'ai manqué un peu m'étrangler ce matin, parce que quand j'ai entendu le titre de votre livre, par ailleurs, je vous apprécie beaucoup. Vous avez un franc-parler, que j'apprécie, et une bonne analyse en général, mais la politique, pour moi, si elle tombe où elle en est, c'est parce que, justement, on en a fait un métier. Des gens qui font... Parce que métier sous-entend carriérisme. Et donc, pour moi, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on en arrive là maintenant. Vous avez des gens qui font Sciences Po, on connaît bien, et puis alors, comme ça, ils ont une voie toute tracée pour se mettre bien au chaud et faire des petits arrangements avec les oligarques pour faire ce qu'on a maintenant.
Oui, qui sont des professionnels de la politique,
ans que ça dure.
Ce que vous voulez dire. Ouais.
Pardon ?
Qui sont des professionnels de la politique, c'est ce qui vous dérange.
Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Parce que n'oublions pas une chose essentielle, c'est que la politique, c'est un mandat. Mmh. C'est pas un métier.
Oui, alors les deux choses pour vous ne sont pas antagonistes,
oui.
Michael Darmon, pour répondre
bonjour,
à Pierre.
Merci pour vos mots. Ce que je voulais préciser, c'est effectivement, et vous m'avez donné l'occasion, vous dites, quand on dit métier, on sous-entend carriérisme. On entend aussi oui. savoir-faire.
Oui,
on entend
expérience.
Également capacité expertise. De produire une politique ouais. publique. Mmh. Qu'est-ce qu'on demande oui. à quelqu'un à qui on a donné un mandat par le vote démocratique, c'est d'être capable de produire une politique publique. La question que je posais dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est est-ce que l'expertise et la nouveauté allaient être capables de produire de la politique publique pour changer la vie des gens ? Parce que depuis tout à l'heure, et Frédéric Dabi le dit très justement, la seule chose que les Français attendent de Jupiter, c'est qu'il foudroie le chômage, et non pas qu'il soit dans une pratique spectaculaire de son mandat. Or, les événements et la crise des Gilets jaunes, qui est ce soulèvement de la petite classe moyenne, l'a obligé complètement à changer de paradigme et à effectivement récupérer les codes de fonctionnement qui amènent à la légitimité et à la pratique des politiques publiques.
Alors, je vous remercie Pierre et je souligne le bilan économique au-delà, on va parler d'autres bilans, mais le chiffre du chômage, le taux de chômage en France tombe à 8,7%, son plus bas niveau depuis 2009 selon l'INSEE. C'est aussi conjoncturel et en Europe, on fait un peu mieux, mais voilà, ce qui auréole aussi les deux ans de mandat d'Emmanuel Macron. Juste après la pause, l'analyse encore de Serge Effez, psychanalyste sur Emmanuel Macron. Est-il son meilleur ennemi et comment justement peut-il aller plus haut que la mêlée et retrouver cette aura et que son autorité redevienne autorité et pas arrogance. À tout de suite sur Europe 1.
Nous nous intéressons à la personnalité et à l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Comment analyser la posture Macron ? Que dit son côté très prince de la République ? Les symboles qu'il a mis en avant, de la solennité de la cour du Louvre le soir de son élection, jusqu'à son exercice très solitaire du pouvoir. Wendy.
Deux ans après son arrivée à l'Élysée, encore quelques instants avec vous, Serge Effez, psychanalyste. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il avait mûri d'une certaine manière, qu'il avait changé dans son approche du pouvoir. Quelle est la force qu'Emmanuel Macron peut mettre à profit justement pour remobiliser à la fois l'électorat et regagner la confiance d'une majorité de Français ?
Alors, c'est vrai qu'il donne le sentiment d'être plus seul qu'il ne l'a jamais été, alors qu'il est très entouré. Oui. D'une certaine façon, le roi est nu. C'est-à-dire qu'il s'est départi de tous ses attributs, de cette aura de puissance, de pouvoir, de cette aura magnifique, de cet enfant merveilleux. Mais aussi, je crois que les attentes qu'il y avait vis-à-vis de lui étaient des attentes un petit peu délirantes, parce que c'est quelqu'un qui venait de nulle part.
Ouais.
C'est quelqu'un qui venait de nulle part, qui n'avait aucune expérience politique, que personne ne connaissait, et qui tout à coup a été quand même reçu comme le sauveur du pays. Donc, ses attentes étaient considérables. Je pense que ses attentes, elles ont baissé, et c'est tant mieux de la part. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelqu'un qui doit remplir une mission, une fonction, un métier, et qui doit l'exercer le mieux possible, et que de son côté, sans doute, ce côté de révolution merveilleuse dans lequel il pensait s'incarner, eh bien, je pense qu'il en a fait un petit peu le tour. Donc maintenant, on l'attend très exactement dans ce qu'il va pouvoir réaliser,
voilà,
dans ses programmes, dans sa fonction, et beaucoup moins dans sa personne, et c'est tant mieux.
Voilà, qu'il mette en avant son bilan, c'est ce qu'il commence de faire, Frédéric Dabi. Vous avez mis en avant justement que la nécessité de regagner la confiance par le pouvoir d'achat et pas par une personnalité, c'était vraiment
un invariant de la Ve République, mais pour élargir ce que M. Effez vient de dire, c'est vrai que tout ça, c'est aussi le fruit de notre élection présidentielle. Des campagnes présidentielles qui sont des machines à fabriquer des attentes, peut-être pas délirantes, mais très fortes du côté des Français. Qu'est-ce qu'une campagne présidentielle ? C'est un moment où la France, où le monde s'arrête de tourner, où l'Europe n'existe plus, où la mondialisation et les contraintes extérieures s'abaissent, et on ne regarde que des candidats qui regardent les Français au fond des yeux, qui leur font des promesses souvent assez forte, trop forte, et ça crée un espoir très fort qui est par la suite déçu. On l'a vu en 2007 avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec François Hollande. Emmanuel Macron a connu autre chose. Il a connu la chance d'avoir plus une opposition, mais plusieurs oppositions éparpillées. C'est aussi son opportunité dans la perspective de 2022.
Merci Serge Effes pour votre lecture du personnage Emmanuel Macron. Et merci Frédéric Dabi. Avant de vous faire réagir, Mickaël Darmon, un petit extrait d'Emmanuel Macron sur notre antenne. C'était le 6 novembre 2018. C'est une interview importante que vous relayez. C'était au micro de Nikos Aliagas dans votre livre. Voilà ce qu'il confie sur la suite et sur son impopularité, Emmanuel Macron.
La voie que nous avons prise, c'est de transformer en profondeur le pays. Et ce n'est pas simplement de traiter les effets, mais de s'attaquer aux causes.
Même si ça touche votre image, vos sondages, même si la cote de popularité peut aussi
mais bien sûr,
être ébranlée.
Et elle le sera encore sans doute un bon moment, je vous le dis. Mais est-ce que dans les temps difficiles que notre pays a traversés, quand les politiques dures ont été menées, dans des temps même beaucoup plus graves, on s'attachait à la cote de popularité? Elle n'existait pas. Et je pense que si d'aucuns qui m'avaient précédé là où je suis avaient regardé leur cote de popularité, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Donc dans ces moments qui sont marqués par l'angoisse, la peur, les changements profonds, il faut savoir tenir. Clémenceau, il y a 100 ans, disait cela. Il faut tenir jusqu'au dernier quart d'heure. Parler de la guerre, bien évidemment. Mais nous avons beaucoup de combats à mener. Et ces combats spirituels, moraux, ne valent pas moins que les combats d'hommes.
Et c'était prophétique, Mickaël Darmon, car avant l'explosion de la contestation des Gilets jaunes.
Oui, et d'ailleurs, c'était intéressant parce que cette interview se déroule à l'orée de cette semaine d'itinérance mémorielle. En novembre. Itinérance mémorielle, où en réalité, il est allé aussi chercher une manière de refaire son pouvoir,
de retisser
des liens avec donc, les Français, parce que déjà, il y avait ce sentiment. C'était vraiment la phase B de cette itinérance. C'était à la fois être dans la logique de commémorer des régions qui avaient été durement touchées par la guerre, mais également il y avait un autre projet qui était celui d'être en contact avec, de renouer avec des Français qui déjà effectivement donnaient ce sentiment de déconnexion et de distance. On était à l'orée des Gilets jaunes et quelques mois plus tard, les Gilets jaunes, totalement, ce mouvement explose complètement. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, un peu à la différence des présidents précédents, c'est qu'il génère du mécontentement parce qu'il applique son programme. Alors que les autres sont tout d'un coup en but à l'opinion publique parce qu'ils n'appliquent pas leur programme. Or là, les promesses sont respectées. Il y a les réformes, il y a la volonté de transformation. C'est justement la méthode qui, à ce moment-là, décuple la colère parce que c'est vrai qu'il soulève le couvercle. Dans les purs historiques, tout dirigeant qui soulève un couvercle longtemps fermé, eh bien, il se prend la pression en pleine figure. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la méthode a décuplé peut-être la colère des Français.
Quelle cote de popularité pour Emmanuel Macron aujourd'hui, pour terminer ?
Aujourd'hui, dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match qui a été diffusé hier, 35% de bonnes opinions, qui est l'indicateur le plus gentil.
Ouais.
Quand on est sur la satisfaction ou le mécontentement, qui est l'indicateur historique IFOP JDD, qui est le plus vieux baromètre de la 5e République, on est autour de 30%. 30%, c'est un socle qui permet de basculer en tête au premier tour et d'être en bonne position pour le second tour. Mais quand même, l'impopularité reste structurellement majoritaire.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Merci Frédéric. Mickaël Darmon, je rappelle votre livre qui est paru hier, avant-hier, aux éditions de l'Observatoire. La politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne. Et on vous retrouve comme éditorialiste politique à Europe 1 dans la matinale notamment. Merci Mickaël,
beaucoup.
Frédéric, pour tous vos appels, chers amis. Et on se retrouve dans un instant pour parler de l'humanitaire. Seriez-vous prêt, vous aussi, à vous engager dans l'une des grandes ONG ? On fait le tour de la question jusqu'à 11h.
Et l'humanitaire aussi est un métier.
Bien sûr. On va le voir.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.